Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien ce matin? Gloire à Dieu, c'est le premier jour, le premier dimanche, nous ne faisons pas de feu dans la chapelle, mais ça se sent un peu, hein? Qu'est-ce que vous en dites, hein, Simone? C'est vrai, ça se sent un peu, hein? Bon, on parle à fond, on tient, on se chauffe dans les doigts, on tape dans les mains en chantant, et puis ça va, on va y arriver. Voilà, bon, on est de tout cœur avec Nicolas et Marc qui sont là-bas à Ouagadougou, je suppose, ils sont en train de faire le culte là-bas, je pense, hein? Et que Dieu les bénisse, ça va aller, on aura certainement des bonnes nouvelles. Il m'a écrit hier, Nicolas, me disant que le 6, il y aura le renouvellement de son visa et qu'après il vient, mais il ne sait pas encore exactement quand. Alors il va apporter du savon, vous savez que dans l'église maintenant ils ont une usine à savon, qu'on leur a offerte, c'est magnifique. Et moi j'en ai commandé, je ne sais pas si vous en voulez aussi, mais vous viendrez me trouver tout à l'heure. C'est très bien. C'est rigolo parce qu'avec Michou, nous sommes allés à Bercy, pas à Bercy, au village de Bercy, c'est ça. Et il y a des boutiques magnifiques là, il y a une boutique. Et ils vendent du savon du Burkina Faso, mais super bien présenté, magnifique, dans des petites caisses en bois. C'est très, très beau. J'ai emmené Nicolas pour qu'il voit, ça va l'inspirer aussi. Voilà. Alors, nous sommes allés, mon ami Jean-Marie Bigard nous a invités à la première de son film, donc on est allé voir le missionnaire. Alors, aller voir le missionnaire, c'est gentil, c'est rigolo, c'est pas grossier, hein. C'est pas un film où Bigard fait du grossier, pas du tout. C'est un dur, c'est un type qui sort de prison et puis qui pour se cacher, prend la place d'un curé, bon, malgré lui, enfin, c'est tout un concours de circonstances qui fait qu'il y a des situations rigolotes, c'est de l'humour de situation, c'est rigolo. Et puis alors, dans la paroisse, il arrange plein de choses, il y a plein de problèmes, il arrange les problèmes à sa façon, et après, les gens sortant du cinéma disent « Ah, ben, s'il y avait plus de curés comme ça, on irait plus à l'église. » Oui, évidemment. Moi, je trouve que c'était bien, je trouve qu'il mérite que... Vous savez... Très souvent, les gens disent, quand ils rencontrent des vedettes, ils leur disent « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Mais des fois, il y en a qui disent « J'aime pas ce que vous faites. » Mais c'est affreux de dire des choses comme ça. C'est comme si, par exemple, on allait vers Thierry « J'aime pas ce que tu fais. Hein, » Thierry, il vend des roses. « J'aime pas ce que tu fais. » Ou alors, vous allez vers un mécanicien « J'aime pas ce que vous faites. » On ne dit pas des choses comme ça. C'est un métier, c'est un travail. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sots de gens. Et je ne pense pas que les acteurs soient des sots de gens. Je pense que plutôt, ce sont les critiques. J'aime pas les critiques. J'aime pas les critiques. Vous avez vu les critiques sur ce film? C'est des snobs, ils foutent rien, ils sont là, puis ils critiquent. Alors évidemment, les critiques, il y en a dans tous les milieux, il y en a aussi dans le milieu évangélique. Alors qu'est-ce qu'on va dire au sujet de mon message ce matin? J'aime pas ce que vous faites. Bah tant pis, Dieu vous bénisse quand même. Amen, Dieu vous bénisse quand même. On va lire Jean 14, 23. Alors on était justement là-bas, du côté du village de Bercy. Et puis, on a découvert toutes sortes de très, très jolis magasins. Je vous recommande d'aller là-bas. C'est très joli. Il y a plein de choses très, très mignonnes à voir. Il y a beaucoup de trucs. Vraiment, allez, vous allez... Moi, je ne savais même pas que ça existait, cet endroit. C'est très, très beau. C'est là où il y avait les vins Pompanon avant. Vous savez, Pompanon, c'était les vins Gévéor. Et c'était un des chrétiens de l'église de l'Assemblée de Dieu de 10 rue du Sentier. C'était un homme... qui a une fortune colossale. D'ailleurs, on disait à l'époque qu'il avait la plus grande fortune personnelle de France. Et il était chrétien, il était là, dans l'église du pasteur André Nicole. C'était drôle. Voilà, Jean 14, 23. Donc maintenant, ils ont transformé tous ces bâtiments. Et puis, c'est très, très joli. Il y a des restaurants, c'est sympathique. Voilà, allez, je vous mets au courant de toutes ces choses. Jean 14, 23, on y revient. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Je pense que sur Internet, on va faire quelque chose de nouveau. On en a parlé avec Richie qui s'en occupe. On va faire quelque chose pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans les études, mais il faudra s'inscrire. Alors, je pense que c'est une bonne idée. On va le faire. Il faudra s'inscrire. Et puis, ça sera gratuite, mais les gens s'inscriront. Et puis, alors, ils pourront avoir accès à toutes sortes de choses encore un peu plus profondes que ce qu'il y a sur notre site, qui est déjà très bien fourni. Hein. Et on pourrait remercier notre frère Richie qui s'en occupe. Hein. Que Dieu le bénisse. Et puis... Je remercie aussi Eric Jacques qui est à la Sono dans toutes nos réunions et puis qui met sur Internet les prédications. Dieu te bénisse, Eric. Voilà. Vendredi, je vous parlais donc du bien et du mal. Alors, c'est vrai que quand on regarde ce pauvre monde, on constate que c'est plus facile de faire le mal que le bien. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas parce que le mal est plus fort que le bien. Ce n'est pas parce que le mal est fort et que le bien est faible. Pas du tout. C'est seulement parce que sur la Terre, les conditions que l'être humain a créées ont peu à peu rendu le mal plus propice que le bien, plus accessible. Alors, vous voulez faire le mal, eh bien, tout le monde est avec vous, tout le monde est d'accord pour vous donner un coup de main. C'est terrible, hein? Mais dès qu'il s'agit de faire le bien, alors là c'est différent. Personne ne vous suit, ou très peu, personne ne vous aide, on vous laisse tomber, on vous soupçonne de faire tout ça pour un gain sordide. Voilà, faites le bien, c'est comme ça. Frères et sœurs, nous sommes dans une région inférieure sur cette terre. On est dans des régions inférieures. La terre, elle gît dans un degré inférieur. Mais dès qu'on arrive à sortir de cette région inférieure spirituellement, hein, eh bien c'est l'inverse qui va se produire. Le mal est étouffé, entravé, ligoté. Parce que quand on vit dans les régions supérieures, le bien devient possible. Il nous est impossible de faire le mal. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit en moi, celui qui ne pêche pas. Et si on désire de faire le bien, on peut le faire, ça devient une chose faisable. Dans la communion avec Dieu, qui est la communion fraternelle, il ne faut pas oublier, eh bien là les conditions sont favorables. Comment pouvez-vous communier avec Dieu si vous ne communiez pas avec les frères et sœurs ? On ne peut pas. Parce que Dieu vit là, dans les frères et sœurs. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Amen. Alors, si sur terre, il est plus facile de faire le mal que le bien, c'est que les humains se sont mis eux-mêmes dans cette position, dans cette condition inférieure, et ils s'y sont mis volontairement. Alors, je vais expliquer. On a vu que on ne peut pas détruire le mal. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, allez écouter la prédication de vendredi, vous allez comprendre. Je ne vais pas reprêcher la prédication de vendredi. Alors, pour commencer, on doit... Il y avait un commencement. Pour commencer, il faut d'abord changer son vocabulaire. Remplacer les mots « combattre », »,« tuer », »,« déraciner », »,« extirper » par d'autres mots comme par exemple « apprivoiser », »,« assimiler », »,« canaliser », »,« orienter », »,« utiliser ». La première série de mots, elle est l'expression d'une conception erronée. La deuxième série de mots, elle exprime une conception plus avancée, plus spirituelle. Hein, Jésus chassait les démons, il ne les détruisait pas. Un jour viendra où il détruira tout ça, mais pour le moment, non. Si lui, il ne les a pas détruits, comment pensez-vous pouvoir les détruire ? On ne peut pas détruire le mal pour le moment. Quand on change de vocabulaire, c'est le commencement, on voit le charbon noir se transformer en un rouge lumineux. Ça change, ça commence à changer. C'est le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole, pouvoir, quand on parle, les mots qu'on emploie sont importants. Que ce soit pour un ennemi, que ce soit au sujet d'une maladie, que ce soit n'importe quelle tentation, n'importe quelle chose, n'importe quelle faiblesse, eh bien, si nous acceptons la façon de Jésus, on aura toujours les meilleures conditions. On se donnera les meilleures conditions pour travailler, pour nous renforcer et pour résoudre nos problèmes. Alors, quand vous êtes tenté de considérer un événement, une situation, un état inférieur comme quelque chose de mal, vous êtes tenté de le considérer comme quelque chose de mal. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment un mal ? N'est-ce pas plutôt un bien caché ou un bien déguisé, comme j'aime le dire ? Tant que vous ne vous poserez pas cette question, vous allez lutter, vous allez vous révolter et vous ne serez pas au bénéfice de ce mal. Il vous nuira. Alors que rien ne peut vous nuire d'après Jésus, mais ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce qu'on a levé sa main dans une réunion et qu'on s'est fait baptiser que voilà, c'est magique, rien ne peut nous nuire. Non, il y a des règles spirituelles à observer, à vivre. Et c'est ce que je viens de vous dire, c'est une de ces règles. Parce qu'en réalité, vous pouvez bénéficier du mal qui vous arrive. Parce qu'en réalité, c'est un bien que beaucoup de gens ne voient pas. Peu de gens, rarement les gens savent voir ce qui est bon ou mauvais pour eux. L'exemple le plus frappant, c'est la nourriture qu'ils ingurgitent. Vous avez remarqué, tout ce qui n'est pas bon pour nous, c'est bon. Oui ou non? Hein? C'est vrai. Je le remarque depuis que j'ai arrêté de manger le soir pour perdre quelques kilos. Qu'est-ce que ça sent bon ce qu'on mange le soir? Hein? Mais c'est fou. Je ne dis pas que ce n'est pas bon ce qu'on mange le midi, mais ça sent bon. Vous ne jouez pas avec les murs, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? C'est très difficile pour les gens. C'est dommage que l'homme ne croit pas ces choses. C'est dommage que ces enseignements-là ne veulent pas être écoutés, ne veulent pas être pratiqués. En général, c'est à la fin de sa vie que l'homme se met un petit peu à comprendre et à devenir sage, n'est-ce pas? C'est un peu trop tard, il est tout foutu, tout capoute. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez croire ce que je vous dis là? Utilisez le mal. Apprivoisez le mal. Orientez le mal. Vous avez autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le faire. C'est ce que je vous enseignais vendredi soir. La réussite dans le bien se situe au milieu et au-dessus du mal. Pas seulement au milieu du mal, mais au-dessus du mal. Parce que trop de gens sont au milieu du mal, c'est-à-dire en plein dans le mal. Ça peut arriver qu'on soit en plein dans une sale situation, en plein dans un sale problème, dans une sale tentation, dans un sale truc. Mais il ne faut pas se mettre au milieu seulement, il faut être au-dessus. Comment on peut être au milieu en tant que chrétien et puis pas être au-dessus? Alors vous êtes au milieu, puis vous résistez, vous résistez, vous résistez. C'est-à-dire vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'au mal, vous ne pensez qu'à votre problème, vous fusionnez avec le mal sans arrêt, vous croyez en lui en fait. Ce qu'on croit, ce qu'on voit, ce qu'on sent. En faisant ça, vous travaillez avec le mal, vous faites l'œuvre du mal. Vous l'enrichissez. Il faut vous mettre au-dessus, pas à côté, au-dessus. Donnez la place au mal et il viendra habiter chez vous. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Il va devenir un locataire. Un locataire. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que nous avons été construits de telle sorte que nous pouvons abriter en nous des entités, des esprits. Si c'est vrai pour le Seigneur, si c'est vrai que nous pouvons être habités par Jésus, c'est malheureusement vrai pour les esprits du mal dont la Bible parle. Au démon du possédé de Gadara, qu'est-ce que Jésus dit? Il lui dit, quel est ton nom? Et le démon répond, Légion. Parce qu'un démon, il vient rarement tout seul. Il prend ses copains avec lui. Il prend des aides. Ils font faire la fête. Ils rentrent en vous, ils font la fête. Ils prennent une foule de serviteurs avec eux pour ravager votre vie, pour la détruire, pour détruire la vie de celui ou celle en qui ils se sont installés. Alors, les gens en qui ces démons existent, vivent, squattent, eh ben, ils ne sont pas là, comme dans les films à Hollywood, vous savez, avec les yeux révulsés, la langue qui penche jusqu'au parterre, et puis une grosse... Et puis ils ont la tête qui tourne sur elle-même. Puis... Non, ça c'est du cinéma, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Frères et sœurs, un humain n'est pas une entité unique, mais il héberge en lui un grand nombre d'autres habitants. Moi, je les appelle les indésirables. Ce sont des créatures d'ordre inférieur qui s'installent chez certaines personnes oisives d'esprit, c'est-à-dire qui n'occupent pas leur esprit, ou alors qui l'occupent avec des mauvaises choses, et ils lui inspirent toutes sortes d'actes insensés. Ces gens-là ne savent même pas ce qui leur arrive. Et c'est pourquoi Jésus dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Les gens qui sont habités par ces mauvais esprits accusent les autres. C'est les autres toujours qui sont les méchants. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, mais contre des mauvais esprits. Ils ignorent même que c'est eux qui les ont invités, qui les ont attirés par la pensée, par des sentiments, par leur façon de vivre. Et une fois que ces entités ont pénétré chez lui, ces entités s'installent, pour être logées, nourries gratuitement, elles foutent tout en l'air, elles abîment tout, elles enlèvent la paix, elles cassent tout, elles enlèvent la joie. Or, si vous allez dire à une personne qui est atteinte de troubles mentaux que ces troubles viennent de ce qu'il a invité des esprits malfaisants à le squatter, il va vous dire, mais t'es complètement... Non seulement, il ne va pas vous croire, mais il va être furieux. Il va être furieux. Ils vont vous traiter d'insensé, de fou, de moyenâgeux, de dingo, de... Frères et sœurs, tous les actes déraisonnables, tous les actes criminels sont dictés à l'homme par des indésirables. Et il dépend de l'homme de ne pas les attirer. Alors, je ne veux pas trop parler des indésirables parce que quand on parle d'eux, ça les attire. Donc voilà, on a parlé, ça va. Je vous dirais seulement que chaque fois qu'on n'est pas irréprochable dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses actes, on prépare les conditions pour la venue des indésirables, des démons. Regardons encore un peu la nature, puisque la Bible nous dit, regardez dans la nature, vous allez voir, contemplez la sagesse, la gloire de Dieu dans ses infinies grandeurs, etc. Romains 1. Chaque espèce d'animaux a besoin d'une alimentation déterminée, n'est-ce pas? Par exemple, Potter, il aime bien la nourriture de Philippe et Edith, là, comment s'appelle cette nourriture? Les croquettes? Nestor quoi? Cook. Nestor Cook. Hein, je fais un peu de pub pour Philippe et Edith. Donnez à votre chien, votre chat, vos veaux, la Nestor Cook. Ils adorent ça. C'est vrai, c'est sérieux. Bon, les autres, il y a des animaux qui mangent des graines, il y a des animaux qui mangent de l'herbe, il y a des animaux qui mangent de la viande, il y en a qui bouffent des vers, puis il y en a qui se nourrissent de cadavres. Donc, pour nourrir les animaux, il faut connaître les aliments qui leur conviennent. Autre chose, si vous laissez traîner chez vous des restes de nourriture sur une table ou par terre, qu'est-ce qu'on voit arriver ? Des mouches, des fourmis, toutes sortes de bestioles. D'où est-ce qu'elles viennent? Comment elles ont trouvé le chemin pour venir jusque-là? Par exemple, l'autre jour, on avait quelques fourmis sur notre... Vous savez, c'est le printemps, puis on est à la campagne. On avait quelques fourmis sur là où on fait la vaisselle. Là. J'ai posé un sucre devant une fourmi qui marchait. Elle l'a contournée, elle ne s'est pas arrêtée. Elles viennent de loin pour trouver ce que vous laissez traîner. Et vous leur placez un machin devant? Non. C'est rigolo, hein? Mais elles vont venir de loin pour venir bouffer parce qu'elles ont des antennes qui captent toutes ces odeurs, toutes ces choses, toutes ces ondes qu'émettent les saletés que vous laissez traîner, la nourriture que vous laissez traîner. Elles ont des antennes qui leur permettent de se diriger depuis loin. Enlevez cette nourriture et les bestioles disparaîtront. C'est vrai dans la nature. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la nature? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, que si vous maintenez en vous certaines pensées, certains désirs, certains sentiments, certains trucs qui ne sont pas lumineux, qui ne sont pas purs, eh bien, immédiatement arrivent des entités qui aiment ces impuretés. Ce n'est pas les impuretés, ce n'est pas les démons qui commencent, c'est vous qui êtes amorcés par vos propres saletés. Vous comprenez? Et ensuite, le démon rentre, vient et commence à vous tourmenter. Ces entités ont aussi des antennes pour détecter la nourriture qui leur plaît. Et puis, elle s'installe chez vous et ça grouille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver des meilleures pensées, cultiver des meilleurs sentiments, cultiver des meilleurs désirs. Et ces entités, qui ne vont plus rien trouver en vous, eh bien, vont vous quitter. Voilà ce que signifie la phrase bizarre de Jésus. Le diable n'a rien en moi. Il ne laissait pas traîner des mauvaises choses en lui. Il ne laissait pas traîner des mauvaises pensées en lui. Il ne laissait pas traîner en lui des impuretés, des choses, n'est-ce pas? Non! Il virait tout ça, il se nettoyait de ces choses qu'on ne peut pas. Quand vous mangez, il y a toujours des miettes, non? Eh bien, dans le monde, que vous fassiez tout ce que vous voulez, même tout le bien que vous voulez, eh bien, vous allez vous souiller. Eh bien, Jésus aussi marchait dans ce monde et il était souillé par toutes sortes de mauvaises pensées qu'il entendait, les gens qui racontent des trucs, des machins qu'on voit, tout ça, ça vous agresse, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser s'installer dans votre tête. Camélia me disait toujours, c'est le diable, c'est un peu comme les oiseaux, tu ne peux pas les empêcher de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid sur ta tête. Jésus ne laissait pas traîner de la nourriture pour démons dans ses pensées. Chaque pensée, chaque sentiment émet des courants ou des ondes, pour parler à la façon du 21e siècle, qui sont favorables au bien ou au mal. Et alors, c'est comme ça que, selon la qualité de ses pensées entretenues, je dis bien entretenues, et de ses sentiments, l'homme attire des démons, des entités sauvages, des larves, enfin des sortes de saletés d'entités. Et il fait lui-même fuir les esprits lumineux, pas le démon, l'homme, la femme, qui fait fuir, qui attriste le Saint-Esprit, qui attriste les esprits lumineux, qui ne supporte pas les émanations de ces êtres inférieurs. C'est clair? Qui vous habite? Qui est dans votre maison? C'est ça la question. Qui avez-vous laissé entrer? Si vous meublez vos sentiments, vos pensées avec des choses nobles, pures, dignes de louange, hein, ça ne vous rappelle pas des versets bibliques, tout ce que je vous dis, mais je ne vais quand même pas vous donner tous les versets bibliques. Vous les connaissez aussi, vous lisez votre Bible. Eh bien, les anges de Dieu, le Saint-Esprit viendront à vous, chez vous, en vous. Et, étant donné que la lumière sera en vous, vous serez la lumière du monde. Sinon, vous êtes les ténèbres pour vous-même et pour les autres. Et cette lumière, le Saint-Esprit, les anges de Dieu, tout ça, repousseront les créatures malfaisantes. Et le centre de la terre les engloutira. Vous allez me dire, ah bon, le centre de la terre? Mais oui, vous ne lisez pas votre Bible. Au moment d'être chassés du corps d'un possédé, les démons ont supplié Jésus en disant de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. C'est quoi ça, l'abîme? Malheureusement, ces choses ne sont pas enseignées ou alors elles sont mal enseignées de nos jours. On a peur de passer pour un moyenâgeux qui croit au diable. Et... Par contre, on laisse Hollywood faire des films là-dessus. On aime bien aller voir ça. Hein? Avec des démons, des vampires, avec des ogres, avec des toutes sortes de bébêtes, de machins horribles. Non, c'est, mais oui, bien sûr. Enfin, ces gens qui regardent ça, ils s'habituent à ce qu'ils vont vivre quand ils passeront de l'autre côté, quand ils diront, ils sortiront de leur corps pour sortir de la vie et entrer dans le séjour des morts. Ben, ils auront l'habitude, ils auront vu déjà toutes ces horribles créatures sur leur écran, n'est-ce pas? Ça leur fera un peu moins peur, peut-être, ça les prépare, c'est gentil. Le fait que ça ne soit pas enseigné, c'est ce qui explique les troubles psychiques, les troubles même physiques, qui sont très, très souvent impossibles à soigner, impossibles à guérir. Les biologistes, eux, ce n'est pas leur boulot. Ils ne vont jamais voir un démon au bout de leur microscope. Alors, comme ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ils ont trouvé des trucs pour calmer, c'est-à-dire pour vous rendre, vous, amorphe, étant donné que vous êtes amorphe, eh bien, les démons qui sont en vous ne peuvent plus se servir de vous pour faire leur truc. Ou moins. Mais dans quel état ils vous mettent avec tous leurs somnifères et leurs je ne sais pas quoi, leurs calmants, leurs trucs. Alors, ne pas voir une chose ou ne pas voir un être n'est jamais la preuve que cet être ou cette chose n'existe pas. Par exemple, quand on ne se lave pas les mains en sortant des toilettes, parce que ça c'est très courant, encore hier on était avec Lucas... À Paris, on est allé aux toilettes, un gros cochon, n'est-ce pas, qui sont là, ils sortent des toilettes, et ils ne se lavent pas les mains, puis après, ils vont vous serrer la main dans la rue, puis bon, ils viennent de se torcher le derche, puis qu'est-ce qu'ils vous... Mais c'est dégueulasse, mais il faut dire ces choses. Ils sont en train de propager toute leur saleté. Est-ce qu'ils en sont conscients? J'espère que non, parce que alors là, c'est de la méchanceté. Là, on est avec la grippe porcine, là. Je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va être une catastrophe mondiale ou si ça va être rien du tout. Mais je peux vous dire une chose, ça se transmet comment par l'homme? Par la saleté. Est-ce que vous les voyez, les bactéries, les virus et les machins? On ne les voit pas et pourtant ils existent. Alors, ils sortent des toilettes, et vas-y, ils vont jouer avec le bébé. Ils vont lui faire sur la bouche. Dégueulasse. Criminel. Ils transportent sur leurs doigts des choses invisibles. Les choses invisibles existent. De même sur le plan spirituel. Souvenez-vous que Jésus disait à celui qui venait de guérir, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive pire. C'est-à-dire, ne laisse plus d'impureté entrer en toi. N'ouvre plus la porte aux squatteurs. Ces entités invisibles On les voit des fois. Moi, j'en ai vu. Je me rappelle toujours de cette femme pour qui j'avais prié, qui avait une main sèche, paralysée. Et au moment où, où le démon et cet esprit de maladie est sorti, je l'ai vu. Et plusieurs pasteurs qui étaient avec moi l'ont vu sortir. Il est tombé par terre et il est sorti par la porte de l'église. On l'a tous vu. Non, maintenant, quand je raconte ça, je vois dans les yeux, pas ici, hein, parce que vous me connaissez, mais des fois, quand je raconte ça, je vois dans les yeux de certains passer un esprit d'incrédulité très prononcé, n'est-ce pas? Ils doutent, ils pensent que c'est faux, que ce n'est pas vrai. Mais regardez comment font les gens. Et encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps, dans les tribunaux, on jurait sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Hein, parce qu'on prend la Bible comme un livre sérieux. Jésus, c'est quand même le plus grand enseignant du monde. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est extraordinaire, quelle sagesse, c'est fantastique, c'est merveilleux et tout. Alors, c'est vrai, ils admirent, mais en même temps, ils doutent quand Jésus parle au sujet des démons. Alors, s'ils doutent que quand Jésus parle des démons et parle de leur existence, ça veut dire que, un, ils pensent que Jésus ment, ou qu'ils parlent à des imbéciles. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, ils ont du mépris. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, moi, ces gens-là, je ne les écoute pas, ils ne sont pas nets, ce n'est pas eux que je crois, moi, c'est Jésus que je crois. Si Jésus dit que les démons existent, ben, je crois Jésus, et puis voilà, puis tant pis. Tant pis pour ceux qui ne croient pas, moi, je sais en qui j'ai cru. Alors, en général, on ne voit pas ces entités, mais il arrive qu'on se sente visité. Vous êtes visité par des indésirables parce que vous avez préparé leur nourriture. Et inversement, vous êtes visité par les anges de Dieu parce que vous avez eu des élans de bonté, des élans de générosité, des élans de pureté. Voilà. C'est ce que les gens appellent, ils sentent la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qu'ils sentent, Dieu est tout le temps présent. Mais c'est la présence de ces êtres de lumière, ces anges de Dieu qui viennent, c'est possible, qu'ils puissent de temps en temps le ressentir. Alors, vos élans de bonté, c'est leur nourriture, en quelque sorte. Hein? Et ça les attire à vous. Votre corps physique, il est comme une maison, avec plusieurs étages, il y a la cave. Tous les étages sont occupés. Hein? Le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ça dépend si vous êtes un pavillon de banlieue ou la tour Montparnasse. Il y a des habitants partout. Il y a des habitants partout. Tout en haut, sur le toit, il y a des êtres qui captent les messages et qui vous les transmettent. L'inspiration, les bonnes idées ou les mauvaises. Alors, le degré d'évolution d'une personne, elle se mesure à la qualité des habitants qu'il a attirés et on voit quelle sorte d'habitants il a attirés à l'harmonie, l'abondance qu'il vit. Elle se mesure à leur production positive, effective. C'est le nouveau vocabulaire pour dire on reconnaît l'arbre à son fruit. Vous voyez, mes frères et sœurs, dans une maison, il y a des locataires, en gros, il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont scrupuleux, hein, qui vont remettre un coup de peinture, qui vont remplacer le papier peint, qui vont ravaler la façade, qui vont fleurir le balcon, la fenêtre, qui vont faire joli, qui vont mettre des bougies pour que ça sente bon. Et puis vous avez les autres, les gros dégueulasses, hein, ceux qui abîment tout, qui rayent le plancher avec leurs dents, qui salissent les murs, enfin bref. Et puis qui s'en foutent, ils ont toujours la boniche pour nettoyer. Hein. Et puis même, ils aiment la saleté, hein, c'est comme ça. Alors, il existe deux sortes de locataires en vous. Certains, en venant vous habiter, vous démolissent. Ils abîment toute votre vie. Je sais bien que ce n'est pas bon de regarder dans le rétroviseur, mais regardez un petit peu, puis faites le bilan. Ça blesse votre cœur, ça abîme votre estomac, ça ramollit votre cerveau. Ça vient du Saint-Esprit, ça? Et puis d'autres? Alors, ils attirent des êtres bénéfiques, des anges de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur. Hein? Et ils s'installent là, ils embellissent leur vie, ils nettoient leur vie, ils purifient, ils consolident tout, ils redressent ce qui est boiteux. Hein, Stéphane? Que Dieu soit béni. Alors, vous connaissez bien ces deux sortes de locataires. Comment on les connaît? Par les sensations que vous vivez, vous pouvez les connaître. c'est-à-dire par les souffrances ou par les plaisirs, par les joies que vous ressentez. Ce que vous ne connaissez pas, c'est leur physionomie. Et vous ne distinguez pas non plus toujours à quel moment ils entrent et ils sortent, parce qu'il y en a, ils vont se balader. Ils ne restent pas tout le temps. Ils vous poussent à faire un truc, puis une fois que c'est fait, vous vous sentez bien, tranquille. Plus de problèmes, plus de tentations. Bah, vous êtes bien. Il sort. Il reviendra plus tard. Hein? Votre maison n'a pas de concierge. Bah, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'ils étaient d'autre que des concierges, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden? Ils devaient garder. Ils étaient des gardiens. Eh bien, votre maison n'a pas de gardien. C'est bien dommage. Votre conscience. Frères et sœurs, Raphaël, il disait toujours, il dit toujours, et il viendra nous le redire puisqu'il sera là au mois de juin, que la conscience, c'est comme un truc en métal qu'on a dans le cœur, qui a trois pointes et qui tourne. Alors la première fois que ça tourne, ça vous griffe le cœur. Vous êtes repris. La deuxième fois, ça griffe un peu moins parce que ça s'use. Et puis au bout d'un moment, la conscience, ça tourne tout seul. Puis vous voyez plus le mal. Vous dites, oh, c'est pas grave. Si vous aviez un concierge, vous seriez immédiatement prévenu quand un mauvais locataire cherche à entrer chez vous. Le mauvais locataire, il détruit chaque jour un peu plus votre équilibre, votre paix. Tous ses désirs, toutes ses passions, ça vous tourmente. Lui se réjouit, mais vous, vous êtes tourmenté. Ils sont là, et puis alors vous avez du mal à les déloger. Et puis vous avez inventé un beau proverbe, « Chassez le galop et il revient au naturel. » C'est ça? Non. « Chassez le naturel, il revient au galop. » Ce n'est pas votre nature, ça. C'est ce que vous avez laissé entrer. On a tous la possibilité de penser au mal, comme au bien. Parce qu'on a cette connaissance du bien et du mal. Mais si vous pensez au mal, si vous craignez le mal, eh bien, c'est le mal que vous attirez, et il vient, et il s'installe, et il vit par vous. Pour n'importe qui. Ce n'est pas votre nature. Vous avez invité des étrangers à venir habiter en vous. C'est vous qui les avez attirés parce que vous avez transgressé certaines lois. Les lois que Dieu a données, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pour nous donner une bonne vie. Et maintenant, ben, ils sont là, et puis ils se cramponnent, et ben, il ne fallait pas les laisser rentrer. Comment ça se passe dans le monde visible? Ben, vous allez vous promener un petit peu, puis vous regardez. Défense de poser des ordures. Vous n'avez jamais vu ce panneau? Interdiction d'uriner. Ça, c'est en Afrique. Partout, vous voyez écrit ça. Vous en avez qui pissent dessus, d'ailleurs. Voilà. Interdiction de cracher. Moi, je me rappelle, il y avait, quand j'étais en Suisse, à Cuilly, c'était un village qui s'appelait Cuilly, j'allais au catéchisme et puis à l'église protestante, là. Et puis, l'église était en réfection, donc on allait faire le culte au tribunal. Vous savez, c'est un tribunal de campagne, donc sur le mur, c'était écrit en gros, cracher par terre, c'est cracher dans les poumons de son voisin. Et puis nous, on était pliés de rire, mais des fous rires pendant le culte à cause d'en dire, regarde, c'est drôle de verset biblique, ça nous amusait. Mais n'empêche que c'est vrai, cracher par terre, c'est cracher dans les... Ne pas se laver les mains, c'est aller répandre la maladie, c'est tuer des gens, c'est les rendre malades, c'est terrible ça. Les écriteaux. Propriété privée, vous avez jamais vu ça? Attention, chien méchant! Pour les démons, le Saint-Esprit, c'est comme un chien méchant, ça leur fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même chose dans le domaine spirituel. Ces interdictions sont indiquées par la parole écrite, c'est-à-dire par la Bible, et par les prédications, par les cinq ministères dans l'Église. C'est à ça que ça sert. Et puis aussi, c'est indiqué par des symboles. Il y a des symboles. Hein, par exemple, vous approchez d'un passage, d'un truc, comment on appelle ça, c'est des transformateurs électriques, tout ça, vous avez un symbole, hein, c'est une espèce d'éclair, machin, avec un bonhomme. Vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire. Eh bien, dans le christianisme, dans le monde spirituel, il y a aussi des symboles. Le pain et le vin, c'est un symbole. C'est le symbole de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Et que nous sommes sous cette alliance, nous sommes au bénéfice de cette alliance. Mais le pain et le vin ne peuvent être efficaces que S'ils sont plus que des symboles, s'ils ne sont que des symboles, ils ne sont pas efficaces, même au contraire. Au contraire. Il faut que les symboles soient en harmonie avec ce qu'ils représentent. En harmonie avec ce qu'ils contiennent de puissance dans la réalité. Sinon, même le pain et le vin, la sainte scène, peuvent laisser passer des mauvais esprits, des maladies et même la mort, votre mort. Ce soir, on va prendre la sainte scène au château. Je ne sais pas, vous qui êtes là en train d'écouter sur Internet, si vous l'avez pris ou si vous allez la prendre bientôt, la sainte scène. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas en ordre, si vous jugez l'Église, si vous jugez le pasteur, si vous jugez vos frères et sœurs, et que vous preniez le pain et le vin, ces symboles vont devenir pour vous des occasions de dépérir personnellement. Même si vous avez raison, parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous dis ça par amour, pour votre bien. C'est Paul qui enseigne ça dans 1 Corinthiens 11, 29-30. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire discerner le corps du Seigneur? Si tu prends le pain et le vin sans discerner que ton frère est un membre du corps de Christ, si tu ne discernes pas le corps de Christ qui est là, tu prends un jugement contre toi-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Je dois vous prêcher ces choses. Je dois vous dire ces choses. Il faut que la question des indésirables, des démons, soit claire pour vous. Quand Jésus est reparti au ciel, la première chose qu'il a dit, il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». La première chose qu'il a dit, c'est « Ils chasseront des démons ». Il n'a pas dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Ça, c'est la dernière chose. La chose la plus importante, c'est de chasser les démons. Parce que c'est la chose, c'est le numéro un dans notre vie. Les déloger. Les déloger. Alors déjà, on ne veut pas les déloger. Déloger les démons qui sont dans les autres si on en est bourré soi-même. Ce qui se passe dans le monde, là, c'est l'œuvre des entités malfaisantes. C'est l'œuvre des esprits démoniaques. C'est les esprits des morts qui est en train d'agir. Ils ont reçu des droits, ils ont reçu des pouvoirs. C'est Dieu qui leur a donné ces droits et ces pouvoirs. Ne demandez pas à Dieu de vous protéger si vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Il ne vous protégera pas. Il vous livrera à toutes ces choses. C'est clair. Ce n'est pas une question de sentiment. Vous n'êtes pas le chouchou de Dieu parce que vous avez fait trempette dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom du Seigneur Dieu, notre Dieu d'amour trinitaire et tout ce que vous voulez. Ça, c'est des symboles. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière le symbole? La vie que vous menez. Ils ont reçu des droits et des pouvoirs, Dieu leur a donné. Elle leur a donné ces choses. À vous d'observer les ordonnances, les règles, afin de ne pas tomber sous leur pouvoir. On va lire Apocalypse 6, 7, 8. C'est intéressant, vous trouvez? Apocalypse 6, 7, 8. Quand l'ange ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant, qui disait, viens, le quatrième être vivant, c'est l'être vivant avec une tête d'homme, hein, vous rappelez. Viens, donc Jean vient, il regarde. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ce sceau a été ouvert, c'est-à-dire, vous savez comment c'était autrefois les livres, ce n'était pas comme aujourd'hui, les livres c'était des rouleaux, et puis pour les fermer, on mettait un sceau, un cachet en cire, et puis pour le lire, ben, on cassait le sceau et on ouvrait, et on pouvait lire ce qui était écrit sur le rouleau. Eh bien, Le quatrième sceau a été le rouleau, le livre où il y a eu une prophétie, cette prophétie qu'on vient de lire, elle était sur un rouleau avec un sceau, le sceau a été cassé, il était ouvert. Il était ouvert à notre compréhension dans un premier temps par le prophète William Branham, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça m'est complètement égal. Mais plus que ça, ce sceau, il a été ouvert, c'est-à-dire que la prophétie qui se tenait cachée là, sous ce quatrième sceau, et qui a été mise à jour, révélée, expliquée par le prophète, eh bien, cette prophétie, elle se réalise de nos jours. Nous sommes sous le quatrième sceau. Les quatre premiers sceaux, dans les quatre premiers sceaux, il y a les quatre êtres vivants. Tête d'aigle, tête de bœuf, tête d'homme et tête d'aigle. Non, c'est la tête d'aigle aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas la tête d'homme, c'est la tête d'aigle aujourd'hui. La tête d'aigle, c'est l'esprit de prophétie. Le cinquième sceau, le sixième sceau, le septième sceau, il n'y a plus d'être vivant. Pourquoi il n'y a plus d'être vivant? Parce que l'Église n'est plus sur la terre. L'épouse n'est plus sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était enlevée. Pendant le quatrième sceau, l'épouse de Christ est enlevée. Donc, il n'y a plus d'êtres vivants parce que les êtres vivants sont là pour inspirer et pour protéger, pour garder l'épouse de Christ qui vit sur la terre. Nous sommes arrivés à l'époque où nous allons être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les lieux célestes, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, je crois. Et nous sommes sous ce sceau-là. Ce sceau, il correspond à ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, 9 à 14. Ça, c'est ce que le prophète a reçu comme révélation. Maintenant, vous me direz, oui, William Branham, écoutez, moi, je ne suis pas là pour les critiques, tout ça, les histoires de religion, je m'en fiche complètement. Moi, je sais que cet homme est un homme de Dieu, envoyé de Dieu, ce qu'il a fait le prouve. Et puis, aujourd'hui, on suit des serviteurs de Dieu qui vous piquent, vous suivez des serviteurs de Dieu qui vous piquent votre pognon. Lui, il n'a jamais piqué le pognon de personne. Il a toujours été honnête, droit, il n'y a pas de scandale dans sa vie. Et il a prophétisé des choses qui se sont toujours accomplies, à ma connaissance. Je connais des gens qui ont été guéris au travers de son ministère. Je ne vais pas essayer de le défendre, mais moi, je vous dis que j'aime ce serviteur de Dieu. Et ce qu'il a annoncé, il a reçu de Dieu une parole, c'est que le quatrième sceau correspond à ce que Jésus dit dans Matthieu 24, 9 à 14. La parole de Dieu, elle vient d'abord au prophète. Jésus ne s'est pas présenté devant les pharisiens ou devant le peuple. Il est allé vers le prophète. C'est le prophète qui a dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous voyez, la parole faite chair s'est présentée au prophète. C'est toujours comme ça. Donc, si vous voulez avancer dans votre vie, il faut croire au prophète. Si vous ne croyez pas au prophète, eh ben, tant pis. C'est votre vie. Moi, je crois. Dieu nous a envoyé un prophète majeur dans notre époque et je crois dans cet homme de Dieu. Je crois en Dieu, mais je crois que cet homme a été envoyé de Dieu. Amen. Branham n'est pas divin. C'était un homme, il a fait des bêtises aussi, il a dit des bêtises. J'ai lu des choses qu'il a dites qui sont des bêtises, mais c'est des choses mineures, des choses bébêtes, parce que c'était un homme qui n'avait pas une grande instruction, mais à part ça, c'était un homme envoyé de Dieu. Et la parole lui a été donnée, le quatrième sceau correspond à Matthieu 24, 9, 14. Je vous le lis. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Rappelez-vous que Jésus parle à des juifs. Et c'est ce qui se passe dans notre génération. Nous avons des juifs parmi nous. Vous savez très bien ce que, durant votre vie, les juifs ont vécu. N'est-ce pas, Simone? N'est-ce pas? Une horreur. Et puis encore aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est un démon épouvantable qui séduit beaucoup de monde. Alors aussi, plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors les gens disent, ah, vous voyez, Branham, non, non. Branham, il montrait toujours Jésus-Christ, il glorifiait toujours le nom de Jésus-Christ. Le faux prophète dont il est question, c'est Mahomet, c'est la montée de l'islam, c'est la montée de Moon, et de tous ces prédicateurs, ces faux prophètes de l'abondance qui vous disent, si vous donnez de l'argent, vous allez en recevoir, et des âneries comme ça. Je ne parle pas d'Osborne, qui lui est un honnête homme de Dieu, qui prêche simplement la parole de Dieu avec honnêteté et qui la vit. Mais je parle de tous les autres qui sont des plagiats malhonnêtes. D'accord? Ok. Comme Cravanzola et compagnie. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est comme ça. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est ce qu'on voit. Jamais l'évangile n'a été prêché dans le monde entier, sauf pendant notre génération. Oui ou non? Donc voilà, ces choses sont accomplies, ces choses sont en train de s'accomplir. Et je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous avertir. Un serviteur de Dieu n'est pas là que pour vous parler de Bartimée, mais pour vous dire la vérité. Et en ce moment, une chose qui ne s'est jamais produite est arrivée. La porte du séjour des morts s'est ouverte et les morts parcourent la terre par millions. Et ça, c'est sous le quatrième sceau. Faites attention à vous. Ne les appelez pas. Ne les laissez pas s'installer en vous. Nous venons de lire qu'un quart de la population mondiale va mourir à cause de cela. Un quart, vous imaginez? Sous le coup des démons et de la mort. Et des morts. Alors mettez-vous résolument du côté de Jésus-Christ. Il a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Quelle parole? Toute la parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vendredi soir, Dieu voulant, je vous enseignerai la suite de ces choses dans cette sorte d'ordre-là. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu m'inspire. Et je prie pour que tous ceux qui entendent ce message et qui n'étaient pas bien en ordre, bien se mettent en ordre avec le Seigneur. Parce que sinon, bien c'est grave quoi. C'est grave. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie pour que ces paroles puissent toucher les cœurs et aller pas simplement dans la case oubliette, mais que cela soit vécu, que cela soit mis en pratique. Père, dans le nom de Jésus, je te le demande. Je sais, mon Dieu, que certains sont peut-être choqués de ce que j'ai dit au sujet du prophète Branham. Eh bien, Seigneur, je veux dire la vérité, je ne me cache pas. Je sais que cet homme a beaucoup apporté et que le frère Osborne le considérait comme son papa spirituel. Je te remercie, mon Dieu, parce que je considère Frère Osborne comme mon papa spirituel aussi. Et je sais, Seigneur, que tu me permets de faire des choses qui sont magnifiques sur cette terre. Et je te prie, mon Dieu, que les gens se réalisent qu'il y a le Amen, ton Amen sur toutes ces actions. Et je te bénis, mon Dieu, parce que tu ouvres les yeux de ceux qui ont besoin de les avoir ouverts pour qu'ils comprennent ces choses et les respectent. Merci, Seigneur, de confirmer toujours ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Je sais, Seigneur, qu'il y a aussi des faux prophètes qui vont venir et faire des miracles, mais ces faux prophètes attirent les gens loin de la parole de Dieu, alors que nous, notre désir, c'est de les attirer à la soumission de ta parole de Dieu, dans une soumission d'amour volontaire. Merci, Seigneur Jésus, de faire que les gens soient intelligents spirituellement et comprennent ces choses pour aller de l'avant. Merci, mon Dieu. Amen.